je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, fort digne de louange, et sa grandeur est insondable. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux. Et ils diront la force de tes actes terribles, et moi je déclarerai tes grands faits. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront hautement ta justice. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel, et tes saints te béniront. Ils parleront de la gloire de ton royaume, et ils diront ta puissance, afin de faire connaître au Fils de l'homme ses actes puissants et la magnificence glorieuse de son royaume. Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination est de toutes les générations. Et quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4e. Quelques versets seulement dans ce chapitre, verset 20e. Nos pères, c'est la Samaritaine qui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci. Et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi. L'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cet après-midi, nous nous sommes occupés d'un sujet concernant l'Assemblée de Dieu. Et le Seigneur m'a mis sur le cœur de poursuivre ce sujet en envisageant brièvement les divers caractères de réunion concernant cette Assemblée et en particulier celle de culte. Nous avons une belle image en Marie, qui, comme nous le savons tous, dans les trois épisodes qui nous sont rapportés d'elle, donc Marie de Béthanie, dans ces trois épisodes, nous avons des types des trois réunions d'assemblée. Si je prends dans l'ordre où elles nous sont données dans l'Évangile, nous la trouvons premièrement au pied du Seigneur pour écouter sa parole. C'est l'attitude qui convient lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Il s'agit là évidemment plus particulièrement de la vie personnelle, individuelle, chez soi. Mais nous pouvons bien faire l'application que lorsque nous sommes réunis, c'est aussi pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante, qui est opérante, et qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle agit jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, nous dit-elle. Écoutez, telle était l'attitude de Samuel. Et Samuel, ayant cette attitude, a beaucoup appris. Jeune garçon, il a été employé par le Seigneur pour instruire un sacrificateur arrivé au terme de sa vie. Ce sont là des choses qui parlent et qui nous montrent la valeur de la communion. L'importance de se tenir au pied du Seigneur pour écouter sa voix. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de cœur qui désire connaître le Seigneur, apprendre à saisir ses pensées, être instruit par lui. Marie, nous la trouvons une seconde fois lors de l'épreuve qu'elle a traversée en perdant son frère, elle s'adresse à lui dans une prière comme l'avait fait Marthe. Et à cette occasion, nous avons là un type de la réunion de prière. Réunion de prière des plus importantes. Quand toute une assemblée est réunie pour s'adresser à Dieu dans la prière, nous pouvons bien être sûrs que c'est une puissance divine, une puissance qui est à la base de la vie, de la prospérité de l'assemblée locale. Et cela peut dépasser ce cadre, car les prières peuvent pénétrer partout, comme on l'a souvent remarqué, et nous introduisent dans le palais du roi, comme dans la plus petite chaumière, et nous introduisent dans les secrets des cœurs, que nous ne pouvons pas découvrir, mais nous y conduisons le Seigneur pour qu'il nous en instruise. La prière est une ressource incomparable. Quand le Samaritain a mené la victime à l'hôtellerie, il a donné deux deniers. Ces deux deniers ont souvent été pris comme symbole de deux ressources, la prière et la parole de Dieu. Toutes les deux sont d'importance. Marie s'est adressée au Seigneur, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Confiance en lui, mais le Seigneur avait plus que le fait d'empêcher Lazare de mourir. C'est ainsi que la prière souvent n'atteint pas à la hauteur des pensées de Dieu. C'est humain, nous sommes limités, le Seigneur ne l'est pas. Et combien de fois il devance ce que nous pouvons exprimer. Ce n'est pas pour rien qu'au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, nous avons l'intervention du Saint-Esprit qui vient à notre secours, car nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit qui connaît intervient. Donc nous avons une ressource puissante. Nous pouvons nous y appuyer, en faire usage le plus possible. Marie, dans une troisième occasion, après la résurrection de son frère, nous avons l'image de la communion, ils sont réunis pour un souper, image de la communion. Et cette Marie, à cette occasion, arrive avec son vase d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix. C'est la personne, sans hésiter, nous pouvons l'affirmer, qui à cette occasion avait dépassé tout ce qui était autour d'elle dans la compréhension de ce qui concernait le Seigneur. Elle avait compris qu'il arrivait au terme de sa course. Elle avait compris que ses heures étaient comptées et son amour pour son Seigneur voulait lui donner un témoignage le plus grand possible en lui offrant ce qu'elle avait de plus précieux. Et ce parfum de nard pur, de grand prix, n'était pas trop pour exprimer son amour pour le Seigneur. Incomprise de l'entourage, mais appréciée du Seigneur, elle a de lui son approbation. Et même cette approbation est accompagnée d'une révélation. C'est là que le Seigneur dit qu'elle a fait cela en vue de sa sépulture. Ce qui nous montre bien qu'elle était intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle s'était tenue à ses pieds. Elle avait été instruite. Elle avait compris que le Seigneur arrivait au bout de sa course. Et elle voulait lui donner un témoignage ultime de son amour pour lui. Le Seigneur l'a apprécié. Et à tel point qu'il a dit que ce que cette femme a fait sera conservé, et c'est bien le cas, nous le pouvons en parler encore ce soir, après bientôt 2000 ans, et cela continue encore. Ce qui est fait par amour pour le Seigneur est inscrit. En tout cas, lui ne l'oublie pas. Quant à cet acte de Marie, il y a l'approbation et une révélation. Quel encouragement pour nous. Nous en venons maintenant au sujet que j'avais sur le cœur d'une façon plus particulière, l'adoration. L'adoration est une chose si élevée qu'on peut dire qu'elle est le point culminant que peut atteindre une créature humaine. Il faut d'abord naturellement être un croyant. Il faut avoir la connaissance des pensées de Dieu, au moins en bonne partie, réaliser quelles sont nos relations avec lui, goûter leur intimité, entrer pour ainsi dire dans le secret de sa tente, le contempler, l'écouter, et l'adoration suivra tout naturellement. Les premiers versets que nous avons lus du psaume 145 sont le résultat des psaumes qui précèdent. Je ne dis que cela pour ceux qui veulent les lire et chercher la compréhension de ces versets. Les adorateurs sont toujours intelligents. Intelligents des pensées de Dieu. Car quand le cœur arrive à ce stade, c'est qu'il a goûté combien le Seigneur est bon et qu'il est attaché à ce Seigneur. Prenons quelques exemples dans la parole. Car Dieu a toujours en vue, quand il sauve une âme, d'en faire une âme qu'il adore. C'est le but, déjà ici-bas, et ce sera l'activité éternelle. Le but ici-bas est atteint dans la mesure où nous entrons dans la compréhension du cœur de Dieu. Si nous prenons le premier adorateur, Abel, il était intelligent. Il avait compris qu'il fallait offrir à Dieu une victime, tenant compte du péché, tenant compte de la nécessité d'une intervention intermédiaire par la victime pour que des relations puissent être de nouveau rétablies. J'essaye d'être bref pour ne pas allonger trop. Le récit qui nous en est donné dans le début de la Genèse a ceci de particulier, c'est qu'il ne met pas l'accent sur Abel, mais l'accent est mis sur la victime. C'est important, c'est très important de le comprendre. Dieu remarque qu'il a offert une victime. Ce geste, ce fait dénote son intelligence, l'état de son cœur, comme aussi il répond à ce que Dieu était en droit d'attendre. L'état donc de ce récit consiste à mettre en évidence la nécessité d'une part et la valeur d'une victime, de la victime. Type de Christ, nous le savons bien. C'est la même chose si nous considérons dans les conseils de Dieu la nécessité de la victime. Le Seigneur devait mourir. Et pour cela, il a été fait pour un temps inférieur aux anges. Il a été donné pour cela. Et d'autre part, l'importance, la valeur de son sacrifice. L'accent est mis sur le fait de la victime. Et cette victime, présentée tout au long de la parole sous la forme typique de tout ce qui était offert sur l'autel d'airain, devient une image complète, en type, du calvaire. Et grâce au calvaire, nous pouvons maintenant comprendre le langage des types. L'antitype nous fait comprendre les types. Les types eux-mêmes avaient un langage qui, presque toujours, tout au long de l'Ancien Testament, est resté obscur pour Israël, pour l'homme en général. Mais lorsque l'antitype est venu, nous pouvons admirer le type. Parce que Dieu avait devant lui, et ceci nous le prouve, la personne du Seigneur et son œuvre, constamment devant lui. Dieu avait toujours devant lui le Fils, et le Fils s'était toujours proposé l'Éternel devant lui, comme union parfaite dans les conseils éternels de Dieu entre le Père et le Fils. Le Fils lui-même, le Seigneur Jésus, ce qui nous est rapporté dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, le Fils lui-même parlera de cette unité. Moi et le Père, nous sommes un. Un dans ses conseils. Et ses conseils ont été absolument réalisés en plénitude, en perfection, dans cette unité. Si nous prenons un autre sacrifice, celui d'Isaac, qui avait été demandé à Abraham. Remarquons deux points ou trois concernant cette scène. Il est dit après ces choses, au chapitre 22 de la Genèse, après ces choses. Quelles étaient ces choses? C'était tout ce qui avait précédé la vie d'Abraham. Son appel, ses expériences, la vue du pays, toutes les promesses qui lui ont été faites, et surtout, ce que nous trouvons, c'est qu'Isaac était l'héritier. Il était l'héritier, c'était un fils miracle. Et l'Éternel lui dit de l'offrir en sacrifice. Là, dans ce cas, c'est l'inverse d'Abel. L'accent n'est pas mis sur la victime, elle est mise sur l'adorateur. Ce sacrifice manifeste l'état d'Abraham. Il fallait une maturité spirituelle, ce que nous appellerions aujourd'hui. C'est-à-dire, il fallait que Abraham ait une telle confiance en Dieu, qu'il ait une telle connaissance de Dieu, une telle assurance, qu'il obéit sans un mot, sans aucune réticence. Son cœur de père certainement a été sensible. Personne ne peut en douter. Mais il avait l'Éternel devant lui, il avait fait des expériences après ces choses, ce qui était avant l'avait formé pour cela. C'est ainsi que l'on peut aussi tirer une leçon, c'est que certaines épreuves, nous disons bien, certaines épreuves sont permises de Dieu pour manifester la spiritualité, la maturité spirituelle d'un croyant. Au début de la vie, elles ne pourraient pas être supportées, tandis qu'elles glorifieront Dieu à son terme. Cela peut se produire, et ceci s'est produit chez Abraham. Il était dans une condition de relation avec l'Éternel, telle, dans une telle intimité, dans un tel attachement, dans une telle certitude de qu'il offre son fils sans aucune réticence. Et ceci est unique dans l'histoire de l'humanité tout entière. Un tel sacrifice n'a pas été renouvelé dans sa demande. Et nous le voyons aller jusqu'à l'extrême limite de l'obéissance quand il a fait le geste pour égorger le fils sur l'autel. Nous connaissons la suite, il a été épargné. Dieu a vu qu'il ne lui avait pas refusé son fils. Voilà le point culminant. Tu ne m'as pas refusé ton fils. Qui pourrait former quelqu'un et travailler dans son cœur pour l'amener à ce point? Personne sur la terre. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans un cœur, dans le cœur d'Abraham. Abraham avait été tiré de l'idolâtrie. Il avait été l'objet de promesses ensuite. Il avait dû rompre avec les liens naturels, attendre même la mort de son père pour pouvoir entrer en Canaan. Il avait fait des expériences qui avaient fait grandir dans son cœur la conscience de la grandeur, de la sagesse et de la bonté de l'Éternel. Il le connaissait. Et l'Épître aux Hébreux va nous révéler ce qui était dans le cœur d'Abraham. Il avait en vue la résurrection. Sa foi éclairée l'a été jusque-là. Jusque-là. Il avait en vue la résurrection. Et en figure, il le reçut comme tel. Nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est une magnificence de l'œuvre de Dieu dans un cœur. Et nous comprenons bien qu'Abraham avait son autel, un adorateur. Tout l'accent dans cette scène de Morija est mis sur l'adorateur. Et adorateur qui a été au degré le plus haut. Ce qui a fait dire donc à un de nos devanciers qu'Abraham a été très haut. Il n'a pas refusé ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, son fils bien-aimé, qui était l'héritier. L'héritier des promesses. Le chaînon pour la suite. Nous prenons la pensée de Dieu à l'égard de l'adoration. Isaac avait aussi son autel. Il était différent de caractère, c'était un homme que l'on peut considérer comme doux, qui allait de lui en lieu aussi avec sa tente et son autel, il avait son autel. C'était un adorateur. Nous ne parlons pas des côtés humains de ces patriarches, mais de ce que Dieu a fait dans leur cœur. Il veut amener tout croyant à l'adoration. Il a amené un Abraham très haut dans l'adoration. On peut dire qu'il a atteint, autant qu'un homme peut l'atteindre, le point culminant. Nous savons qu'Isaac était également un adorateur. Quant à Jacob, Jacob a passé, on peut dire, toute sa vie dans d'autres sentiments. Et pourtant, il était aimé de Dieu. Dans le dernier prophète de l'Ancien Testament, nous avons la révélation de Dieu, j'ai aimé Jacob. Et pourtant, Jacob comme homme, on pourrait dire qu'il n'était pas aimable. C'était un homme dont nous connaissons bien les caractères, dont nous connaissons les agissements, encore aidé dans le foyer maternel. Jacob a été un marchand. Il a toujours tout marchandé. C'était un homme matérialiste, nous dirions aujourd'hui. Quand il a eu la vision de l'échelle, il pose des conditions à l'Éternel, en disant « si tu ceci, si tu cela, je ». C'était le marchandage sur toute sa vie. Et sa vie est imprégnée de cela. qu'est arrivé au terme de sa vie, il devra rencontrer celui qu'il n'a pas glorifié pendant sa vie. Mais Dieu n'a pas renoncé à son but, c'est de faire même d'un Jacob un adorateur. Il fallait qu'il y arrive. Malgré sa nature, malgré ses agissements, malgré les circonstances. Et nous voyons un Jacob au terme de sa vie en Égypte. Nous connaissons toute l'histoire de son fils bien-aimé Joseph, qui n'est pas pour rien dans la maturité finale du cœur de Jacob. Nous voyons ce Jacob devant le Pharaon, grand monarque de l'époque. Lequel des deux est le plus grand? Est-ce le Pharaon ou Jacob? C'est Jacob qui bénit le Pharaon. Il était donc au-dessus. Celui qui bénit est plus grand que celui qui est béni. Là, le tournant s'opère. Et nous avons ensuite ce Jacob sur son lit de mort qui prononce une des plus belles prophéties que nous ayons dans l'Ancien Testament concernant Israël en invoquant les 12 tribus par ses 12 fils et tout ce qui les concerne jusqu'aux collines éternelles. Et nous avons ce passage dans la fin des Écritures concernant Jacob qu'il adora appuyé sur le bout de son bâton. Un frère faisait remarquer qu'Abraham et Isaac avaient un autel, c'est-à-dire un monument, généralement composé de 12 pierres. Jacob n'avait qu'un bâton qu'appuyé sur la terre, sur un tout petit espace, 1 cm². Il était appuyé sur cela pour adorer, mais Dieu l'a amené là. L'autel était petit. C'était l'autel de celui qui avait voyagé dans ce monde pour faire des affaires, mais le cœur de Dieu n'a pas renoncé à ce qu'il voulait avoir de lui. Et il lui confie à la fin de sa vie cette prophétie merveilleuse du chapitre 49 de la Genèse. Et nous avons finalement la révélation qu'il adora, appuyé sur le bout de son bâton. Ainsi, les 3 patriarches peuvent être considérés comme ayant été des adorateurs, pas au même niveau, pas au même degré, mais adorateurs. Dieu ne renonce pas à ce qu'il se propose. Et ceci est très beau, n'est-ce pas? Si nous prenons la parole de Dieu dans la suite, nous pouvons y trouver, par exemple, dans le Lévitique au chapitre 6, ce serait intéressant de lire 1 ou 2 versets. Lévitique 6, quelques versets au début de ce chapitre. Nous lisons, et l'Éternel parla à Moïse, disant, commande à Aaron et à ses fils en disant, c'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra sur sa chair ses caleçons de lin et lèvera la cendre de l'holocauste que le feu a consumé sur l'autel et la mettra à côté de l'autel. Et il ôtera ses vêtements et revêtira d'autres vêtements et il en portera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin et y arrangera l'holocauste et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Nous Nous avons ici ce qui est appelé la loi de l'Holocauste. Je m'arrête quelques minutes sur ce passage parce que on parle souvent des sacrifices avec raison. Nous les connaissons tous, les quatre. L'Holocauste était le sacrifice par excellence. Brûlés entièrement sur l'autel, les victimes n'étaient dépouillées que de leur peau. La victime entière était brûlée sur l'autel. La peau seulement était pour le sacrificateur. Ce n'était pas sa nourriture. La peau signifie le vêtement. C'était le vêtement de la victime et par type, elle devient le vêtement du sacrificateur. Ce qui pour nous correspond à ceci, nous sommes revêtus de Christ. Christ comme l'Holocauste. Mais ce que je voulais faire ressortir, c'est que nous parlons souvent des quatre sacrifices et des commandements relatifs à chacun d'eux. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de façons de lire cela, mais on s'arrête rarement sur la loi du sacrifice. Chaque sacrifice a les commandements qui sont présentés sur la manière de les offrir, les quatre. Et il y a à côté des commandements la loi du sacrifice, qui est une autre chose. Elle se rattachait évidemment à chaque sacrifice, mais il y avait une instruction bien intéressante. La loi était prononcée devant tout le peuple. Tout le monde pouvait l'entendre. C'était une communication de Dieu pour l'intelligence de ce qui se passait, afin que chacun connaisse la signification de ses sacrifices et surtout la manière de les offrir. Tandis que la loi des sacrifices n'était donnée qu'au sacrificateur. C'était pour ainsi dire une communication spéciale pour avoir une compréhension que tout le peuple n'avait pas. Et nous l'avons ici sous une figure qui peut passer inaperçu si la lecture n'est pas approfondie. Il est dit, c'est ici la loi de l'Holocauste, ça c'était pour tout le peuple. C'était pour les sacrificateurs, Aaron et ses fils. Alors cette loi leur dit, quant aux cendres, il faut donc brûler sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel brûlera sur lui. Le sacrificateur, il est question ensuite de ses vêtements. Et au verset 3, nous avons, il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumé sur l'autel et la mettra à côté de l'autel. À côté de l'autel. Ceci faisait partie d'une ordonnance qui s'appelle la loi de l'autel. Il fallait mettre cette cendre à côté de l'autel. Autrement dit, la cendre est un rappel d'un sacrifice accompli. Il est à côté de l'autel de façon à ce que le sacrificateur le voit continuellement. Il avait les yeux sur ses cendres. Plus loin, ses cendres sont portées hors du camp dans un lieu pur. Cela devient un témoignage, un rappel pour le monde, hors dans le camp, hors du camp, dehors. C'est exactement ce qui se passe quand nous participons à la scène. La compréhension de ce qu'est la table du Seigneur, la scène et la table, la compréhension est accordée aux enfants de Dieu seuls, car maintenant tous les enfants de Dieu sont sacrificateurs. Le monde n'y comprend rien. Mais ce souvenir de la mort du Seigneur est proclamé devant le monde. Alors la loi rappelle à ceux qui sont là autour de l'autel, les cendres étant à côté de l'autel, leur rappelle les souffrances et la mort du Seigneur. Et en rompant le pain, en prenant la coupe, nous faisons ce qu'il a dit de faire en mémoire de lui. C'est le rappel et continuel, nous ne devons jamais oublier la mort du Seigneur précédée de ses souffrances. C'est ce que signifie le feu qui brûle continuellement sur l'autel. Tandis que le monde verra ses cendres dehors, parce qu'il est dit dans l'Écriture que quand la révélation est complète, dans les Corinthiens, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, n'est-ce pas? Vous annoncez la mort du Seigneur à qui? Au monde. Ce sont les cendres hors du camp que tout le monde peut voir. Qu'il les regarde ou qu'il ne les regarde pas, c'est le souvenir d'un sacrifice accompli. Ainsi, une assemblée qui est réunie pour le culte proclame dans ce monde qu'un jour, il y a 2000 ans bientôt, la victime de Dieu parfaite a été offerte sur le calvaire pour le salut du pécheur. C'est une proclamation divine, et il est dit dans un lieu pur, c'est-à-dire cette proclamation est pure. C'est le plus pur évangile qu'on puisse prêcher. C'est l'évangélisation par excellence. C'est le témoignage le plus élevé, et c'est le, on peut dire, le langage le plus puissant. Que l'Assemblée s'en soit bien consciente, et cela donne un côté merveilleux de ce que nous pouvons faire, de ce qui nous est communiqué, de ce qui nous est révélé, de ce que cela signifie. Donc la loi, qui n'est pas la même chose que le commandement, c'est quelque chose qui appartient aux croyants. Le Seigneur a pour ainsi dire des secrets pour les siens. Il instruit ceux qui sont ses enfants de ses pensées profondes. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, que nous nous réunissions par habitude, accomplissions des choses dont nous perdons de vue la véritable signification. Ce serait triste d'en arriver là, mais que nos cœurs soient exercés, que nous ayons devant nous constamment la grandeur de ce que comporte tout ce que Dieu nous accorde. Et c'est le cas ici quant à l'Holocauste. Et c'était le sacrifice le plus élevé. Ils sont tous élevés dans leur sens, dans leur caractère, mais c'était le sacrifice excellent pour Dieu. Et c'est ce que nous rappelons. C'est ce que nous rappelons surtout. Il est évident qu'à la façon du pain, nous rappelons les quatre sacrifices, mais spécialement celui-là. Le prophète Ésaïe a eu une révélation telle que le dernier verset du chapitre 53 contient les quatre sacrifices avec leur signification, et il nous reporte dans les quatre évangiles. On pourrait lire ce passage, il est très court, mais c'est vraiment touchant de voir avec quelle précision le Seigneur nous communique les choses en si peu de mots. Ésaïe 53, nous trouvons cela, c'est le verset 12, que nous pouvons lire. Il est question donc du Seigneur, desquels les hommes n'ont fait aucun cas, mais que Dieu a haut élevé. Et il est ajouté au verset 12, c'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, car il partagera le butin avec les forts. Voilà une prophétie concernant le Seigneur. Parce qu'il aura livré son âme à la mort. Voilà le rappel dont nous venons de parler. Il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Si nous prenons ces termes les uns après les autres, en quelques mots, donc il y a une prophétie au début du verset 12 concernant l'ère millénaire. Ensuite il est dit, la raison de cela, c'est parce qu'il aura livré son âme à la mort. C'est l'évangile selon Jean, qui nous le présente comme fils de Dieu, sous son caractère divin particulier. Il a livré son âme à la mort, si nous lisons la note qui est au bas de la page, nous avons la confirmation. Livrer son âme à la mort. Le Seigneur a offert le sacrifice par excellence. C'est l'Holocauste. Si nous prenons l'expression suivante, il aura été compté parmi les transgresseurs. Si nous prenons le parfait serviteur, il a été sous-estimé comme tel, crucifié à la fin de l'évangile de Marc, entre deux brigands, mis au rang des transgresseurs. Et si nous prenons l'expression suivante, il a porté le péché de plusieurs. C'est le sacrifice pour le péché, c'est Matthieu. Matthieu qui nous le présente comme la victime expiatoire pour le péché. Et si nous prenons la dernière expression, intercéder pour les transgresseurs, nous avons là le Seigneur sur la croix, et la première parole qu'il y a prononcée sur les sept. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est l'évangile de Luc. Nous avons les quatre évangiles, avec leurs quatre caractères, et en plus de cela, une prophétie dans un seul verset. C'est bien la parole de Dieu, une parole incomparable. Nous allons un peu plus loin maintenant et parlerons de ce que nous avons lu dans le chapitre 4 de Jean, quelques mots. Quand le Seigneur parle à la Samaritaine, à la Samaritaine, nous avons bien quelque chose à apprendre dans ces quelques paroles. Cette montagne, c'était le mont Garizim. Vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi. L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, etc. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Elle était attachée à un lieu. Tandis que le Seigneur dit en esprit et en vérité, il n'y a plus question de lieu, mais en esprit et en vérité. C'est autre chose. Il s'agit maintenant d'être groupé autour d'une personne. Ce n'est ni le mont Garizim où adoraient les Samaritains, ni Jérusalem où adoraient les Juifs. Adorer, c'est une façon de parler, disons, où ils offraient des sacrifices. Mais il parle des vrais adorateurs. Il le dit plus loin, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question de lieu, c'est une question de vérité. Ce n'est plus une question de victime type, mais c'est une question maintenant d'œuvre de Dieu dans le cœur. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration est une chose extrêmement élevée. Nous pouvons, par exemple, considérer des expressions dans les psaumes, comme aussi même dans le Nouveau Testament. Une des premières qui nous est recommandée dans une épître, c'est « Soyez reconnaissants ». La reconnaissance est tout à fait à sa place, car Dieu est un Dieu qui donne. Il donne, et nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants, sous tous les aspects. Il y a l'action de grâce, c'est déjà plus élevé. Ou bien, si nous voulons, le mot original Eucharistie, qui veut dire se prosterner devant quelqu'un qui est plus grand que soi, c'est l'action de grâce. Nous le faisons, nous rendons grâce. C'est un stade déjà plus élevé dans la relation devant le Seigneur. Il y a la louange. La louange a ceci de particulier, c'est qu'elle nous détache de nous-mêmes pour faire contempler quelqu'un d'autre de méritoire. Et la louange s'adresse à celui qui est méritoire. et détourne déjà nos yeux sur une personne. Et ceci est magnifique. C'est dans l'Ancien Testament le terme le plus élevé. L'Ancien Testament ne parle Nous ne trouvons pas le terme d'amour dans l'Ancien Testament. Nous y trouvons surtout la louange, la mention de la bonté de l'Éternel. Et remarquons que ce que devait faire un Israélite quand il venait vers le sacrificateur avec sa corbeille de fruits du pays, manifestant ainsi l'exaucement des promesses que Dieu avait faites à Abraham, il venait et devait dire « Mon père était un Araméen » qui périssait, et puis a ajouté ensuite une reconnaissance pour les fruits du pays qu'il offrait aux sacrificateurs. Tout ceci est en rapport avec le niveau d'Israël, dont les promesses s'arrêtent à la terre, et dont le langage y correspond. Tout ce qui concerne Israël s'arrête à la terre, que ce soit les promesses, que ce soit n'importe quel langage. Tandis que si nous prenons le Nouveau Testament, tout nous détache de la terre. Tout nous transporte dans la sphère céleste. C'est ce que nous venons de lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. N'est-ce pas, le Seigneur lui dit, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs. Voilà les adorateurs avec le caractère céleste. Ils sont appelés les vrais adorateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette adoration? C'est plus élevé que la louange. Quelqu'un qui exprime sa reconnaissance pour avoir été bénéficiaire de dons, il est tout à fait louable, c'est bien, mais ce n'est pas du tout l'adoration. Ce n'est pas l'adoration. C'est tout autre chose, l'adoration. Quelqu'un qui rend grâce va déjà plus loin, mais ce n'est pas encore l'adoration, ni même la louange. La louange fait contempler, elle fait estimer. L'adoration, notre frère vénéré Igendé l'a défini à peu près ainsi, l'adoration, c'est partager la joie de Dieu trouvée dans son Fils. Partager la joie du Père qu'il a trouvée dans le Fils. Autrement dit, l'homme est tout à fait oublié. Complètement oublié, ce n'est pas un mobile, ce n'est pas un motif de reconnaissance que nous exprimons alors, ce n'est pas seulement une action de grâce, ni même un regard sur quelqu'un qui digne de louange, mais c'est entrer dans la joie de quelqu'un et la partager parce qu'il a été pleinement satisfait, pleinement glorifié. C'est ce que touche l'apôtre Jean dans sa première épître. Quand il dit « Notre communion » est avec le Père. Qu'est-ce que cela? Notre communion est avec le Père, et il a ajouté, et avec son Fils Jésus-Christ. Le Père a trouvé dans le Fils une telle satisfaction qu'il veut la partager avec les siens. Comme quelqu'un qui a trouvé la perle de grand prix, ou même dans les paraboles de Luc 15, la joie est si débordante qu'on cherche quelqu'un pour la partager avec. C'est partager ce que Dieu a trouvé dans le Fils pour sa gloire et pour la joie de son cœur. C'est entrer jusque-là. Et l'on comprend que lorsqu'on adore, on oublie la terre, on oublie l'homme. C'est en dehors de sa sphère. C'est tout est céleste. C'est d'une élévation telle que nous pouvons bien répéter la parole que nous avons dite au début. Un chrétien qui adore, rien n'est plus grand dans sa vie. C'est le moment culminant de sa vie. Une assemblée qui adore, mais c'est pareil. Et quand elle est faite en commun, ceci porte le nom de culte, mais ceci devrait porter le nom d'adoration commune. Et les cœurs devraient bouillonner. Nous avons dans les psaumes, des expressions, mon cœur bouillonne, et j'exalterai, je chanterai, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'apathie dans un tel exercice. Parce que l'on entre dans le bonheur de quelqu'un, on le partage. Et on ne peut pas faire autrement que l'exprimer. L'exprimer. C'est une joie qui n'est pas souvent exprimée par une grande volubilité, mais par une joie qui est partagée. C'est le sommet de tout ce que nous pouvons trouver dans la vie chrétienne. Et c'est un avant-goût de ce que sera l'éternité pour nous. Quand nous serons semblables au Seigneur, alors la louange montera avec des accents inconnus maintenant. L'apôtre Paul, ravi au troisième ciel, avait entendu des choses ineffables. Nous ne savons pas ce que c'était, des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et si nous lisons Apocalypse 5, nous avons trois sujets qui sont présentés, l'agneau au milieu du trône, sa dignité, et le fait qu'il peut ouvrir le livre et le regarder. Tout ceci est une gradation quant à sa dignité. Qui est digne? Un seul est trouvé même dans le ciel, c'est l'agneau de Dieu. Sur la terre, il était le seul juste, le seul homme qui ait glorifié Dieu et qui a répondu pleinement à son cœur. Dans le ciel, la question est posée, qui est digne? La réponse n'est pas immédiate pour donner à Jean le temps de pleurer parce que personne n'était trouvé digne. Mais voilà l'agneau, voilà aussi le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Il est digne, il est digne. Ceci nous montre que le Seigneur Jésus est la base de toute bénédiction. Il est la base de toute la gloire et de toute la joie de Dieu le Père. Il est le sujet de l'adoration éternelle et nous partagerons cela. Le Seigneur n'a dit pendant qu'il était sur la terre, il a dit que deux fois je veux. La première fois qu'il a dit je veux, c'était pour la guérison d'un lépreux. C'est en un mot l'image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux. Enlever la lèpre, image la plus mordante du péché, la plus profonde, qui le typifie dans toute sa force, il est venu pour cela. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux. Une seconde fois je veux, c'est en rapport avec l'adoration éternelle. Père, dans Jean 17, je veux que là où moi je suis, il s'y soit aussi avec moi. Pourquoi? Pour qu'il voie ma gloire. Et si nous sondons cette expression, pour qu'il voie ma gloire, c'est précisément l'adoration. Partager son propre bonheur. Nous réjouir de ce que il est, lui, glorifié. De ce qu'il est, les délices du Père. Entrer dans cela. Voilà l'adoration. C'est si élevé, c'est si grand, que nous sommes confondus que Dieu nous les fait comprendre, au moins quelque peu. Et nous pouvons bien, non pas seulement le dimanche matin, à l'heure de culte, mais nous pouvons bien prendre le verset qui se trouve à la fin de l'épître aux Hébreux, au dernier chapitre, c'est la conclusion en somme de l'épître, quand il est dit, offrons donc par lui sans cesse à Dieu, c'est notre état permanent de tous les jours, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Le sacrifice de louange, disons, c'est l'avant-dernier échelon. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, c'est l'adoration.